Edenred et Sodexo, très durement touchés par la crise, ont fini la journée en hausse, respectivement de 1,9 et 2,2%. Le marché a particulièrement bien accueilli l'annonce d'un remboursement anticipé de prêts de la part de Sodexo pour un montant de 1,4 milliard d'euros. C'était Rémi Demichelis, Investir pour RFI.
Merci Rémi Demichelis et bonne
Radio G. www.radio-g.fr.
Je suis avec Anneli, Kelly,
salut,
et Valentin.
Salut.
Aujourd'hui dans l'émission, on aura un blind test proposé par Kelly, une chronique tech présentée par moi-même, une histoire de trésor aux États-Unis racontée par Valentin, et Anneli allait interviewer Emmanuel Dupont des Bouffées d'Art, un festival regroupant musique, cirque, théâtre et bien d'autres choses. Et comme depuis le début de cette émission, on commence en musique avec un morceau proposé par Annie, qui veut peut-être nous en dire un peu plus.
Oui, en fait, c'est tout simple, je l'ai choisi dans la programmation des Bouffées d'Art, c'est 54, un groupe qui va passer à la toute fin du mois d'août, je crois que c'est le 30 août. Et il y aura Nerlof aussi, ces deux artistes, ils ont été proposés par le Festival des Éclectiques. On parlera des Bouffées d'Art plus en détail après, mais c'est 54 et le titre, c'est « Rien de nouveau sous le soleil ».
Sur le beat et tout en Ralph Lauren, attaque ton hymen comme l'équitation. J'ai pas ton temps, donc le galop et le rythme qu'on prend. Français en QWERTY, non je te comprends pas. Tout est devenu global, oublie ton idée. Comme cet immigré dont on ne veut pas. L'ère de l'individualisme entretient la dualité. Je fais tout pour être humain, tu ressens même pas la gravité. Les vieux ont peur de mon regard, j'essaye de maîtriser l'élan de mépris que j'éprouvais à ton égard. Et j'ai peur pour mes gars, dehors c'est la jungle. Je veux planter le plus grand arbre pour qu'en haut ils puissent chiller. Et je dois penser à moi, parfois je subis ce que je vois. Pas besoin d'une île privée, l'amour c'est ce que j'en vois. Et j'essaie de partager face à leur hermétisme. Ta sœur aime les métis, ça t'a pas plu en quoi. 5-4 sera éclectique, c'est ce à quoi j'aspire. Et que tu sentes ton cœur battre, comme quand elle dit je t'aime. Y'a que là que tu sens ton être, banalise pas le présent. En attendant j'éclate une batte et puis installe les fers. Fais la plus belle détresse pour quitter la détresse. Cet étalon m'amènera dans la plus belle des clairières.
Putain, tout comme
Ramadan et F54 est une nouvelle genèse. Le Scud a fait un tour, ça te fait direct l'effet d'une new use. C'est vrai, Coco une fois de plus a semé le sable et créé l'Éden. J'écris les grêlons créateurs de la nouvelle ère en une semaine. Je sens de plus en plus le besoin de proliférer. Broly se fait inquiet devant mes propos et en devient eunuque. Ton gars est broliqué, mais je sais qu'à la sortie tu suceras. Tu vis de moche de C, on t'offre la chance d'un nouvel espoir. C'est triste.
Sous le soleil,
sous le soleil,
tout était éteint.
Ouais.
On aurait pu faire des merveilles. Check toutes ces
putains.
Rien de nouveau sous le soleil,
sous le soleil,
tout était éteint.
Ouais.
On aurait pu faire des merveilles.
Ah. Ah.
Check tous ces putains.
Piège.
Alors ce soir, on parle des Bouffées d'art, un festival que vous retrouvez au château du Plessis-Massé. Il y aura du théâtre, de la musique ou encore du cirque. Le festival a déjà commencé, mais on peut le retrouver tout l'été jusqu'au 30 août. Et pour en parler, je reçois Emmanuel Dupont, directeur du château du Plessis-Massé. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là à nouveau. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, c'était derrière ces mêmes micros, tout début mars, et c'était pour présenter Très Tôt en Scène.
C'est ça.
Le festival qu'on retrouve chaque année. Et à ce moment-là, on ne s'attendait pas du tout, on n'imaginait pas du tout ce qu'on allait traverser, que tout allait être annulé en termes de programmation culturelle. Les bouffées d'art, elles n'étaient pas du tout prévues. Si j'ai bien suivi.
Envisagé, tout à fait.
Ouais. Comment ça s'est monté? Comment ça a été imaginé aussi dans cette période de grande incertitude, particulièrement dans le monde culturel?
Alors, je crois qu'à notre niveau, c'est vrai que personne ne pouvait présumer de tout ce qui a été annulation, de ce qui a été en fait arrêt total de l'activité, notamment dans le milieu artistique, le milieu du spectacle vivant.
Ouais, ça a eu lieu en quelques jours en plus,
voilà,
c'est triste.
L'idée, c'est que nous, on est un peu à la croisée de plusieurs activités au sein du château. On organise effectivement en fait le festival Très Tôt en Scène par le biais de la structure qui gère le château qui s'appelle Anjou Théâtre. Donc, de ce festival qui est plutôt un festival de programmation pro et amateurs et de sensibilisation en fait du théâtre au jeune public. Il a fallu savoir comment aussi derrière on allait s'adapter par rapport à la fermeture du site du château du Plessis-Massé, puisqu'on est un établissement recevant du public, donc on avait aussi ces mêmes contraintes. Et on accueille également le festival d'Anjou. Donc tout ça en fait, on a fait voilà un petit nœud, une croix dessus, et puis on a essayé de composer en attendant des jours meilleurs. On a essayé de s'organiser au Plessis-Massé pour créer un petit peu de l'envie dès que la possibilité se ferait de pouvoir voilà revenir au sein du château. C'est pour ça que mes collègues ont été très présents sur les réseaux sociaux avec leurs différentes propositions. Et puis à un moment donné, la question est revenue assez régulièrement de la part du milieu artistique. On a été interpellé par une lettre qui a été envoyée à tous les élus du département pour savoir ce que le politique devait faire et ce que le milieu en fait artistique attendait aussi de ses élus. Et c'était une véritable semonce en fait, un véritable coup de semonce dans le sens où il y avait des questions précises et une urgence. Il fallait y répondre de manière urgemment. Nous, on s'est posé pas mal de questions autour de ça, de quelle manière on pouvait aussi le traiter en fait et formuler une réponse. Et rapidement est venue la proposition d'une programmation en fait éphémère au débeauté à l'arraché. C'est un terme qui a été utilisé depuis, mais et qui voilà donc sous-entendu et on va dire très très clair. L'idée, ça a été de répondre du mieux qu'on pouvait. Et en ça, en fait, ce qu'on a mis en place assez rapidement, lorsque le département de Maine-et-Loire, puisque c'est lui qui a impulsé en fait la proposition, et s'est positionné et nous a demandé de programmer une trentaine de dates en fait sur l'ensemble de l'été. On a 10 semaines, ça représentait l'équivalent de 3 dates par semaine, et de démarrer éventuellement sur le week-end qui marquait le début de l'été, qui marquait la fête de la musique. Et derrière, on ne pouvait pas nous en fait s'arroger le droit de programmer en fait sur des registres, je pense à la musique classique, je pense à la danse particulièrement, qui ne sont pas tellement en fait de notre ressort.
Que vous êtes plutôt spécialisé théâtre ou
exactement, et c'est en ça où ça a été très intéressant selon moi en fait de pouvoir aussi lancer des perches auprès de tous les partenaires culturels du département. Ils sont au nombre de 23, qui sont à la fois des structures, parfois quelques compagnies qui sont des compagnies qui font un travail d'action culturelle assez fort en fait sur le château. Je pense à la Parenthèse qui joue demain soir justement au Plessis Massé, et on a eu, et c'était ça qui était assez enthousiasmant, on a eu énormément de réponses positives déjà, très motivantes, parce que tout le monde en fait a accéléré le rythme pour nous proposer à la fois une expertise de programmation, des moyens techniques, des moyens humains en fait, un regard en fait, et en tout cas un soutien en fait, sans faille. Et s'il y a quelque chose voilà qu'on retiendra de cette préparation, parce que on n'en est pas peu fier, mais il faut quand même replacer le contexte, on a eu 19 jours pour monter en fait une programmation de 2 mois et demi,
de 30 dates
à tout point de vue, techniquement, d'un point de vue logistique, en communication, en programmation. Et si jamais en fait toutes les personnes autour de la table n'avaient pas été aussi moteurs en fait, on n'aurait jamais pu le faire nous-mêmes tout seul. Je pense aux structures comme le Shabada, comme le THV particulièrement. On a travaillé également avec le Festival des Cordes de Loire, avec la Collégiale Saint-Martin qui nous a apporté énormément de matériel, le TRPL qui nous a proposé ses moyens humains. Cette croisée des efforts en fait et d'énergie a suscité aussi en fait, on va dire quelque chose d'assez fort qui a été aussi en fait perçu par les artistes. Le retour qu'on a depuis le début de la programmation et aussi des premiers échanges qu'on a avec les artistes ont été mais très touchant, très très émouvant pour beaucoup, parce que on a lancé la soirée d'ouverture avec le Shabada et des Lions pour des Lions et Loire Valley Calypso, et tout de suite en fait ça s'est fait très naturellement, très facilement, alors que voilà ils n'avaient pas forcément repris les sets, la repréparation, et là en fait depuis le début l'exemple le plus frappant c'est tout le travail d'Amala en fait, d'Amala Dianor qui est venu danser avec son comparse en fait B-Boy Junior en fait, donc le 25 juin sur scène dans nos murs. Ils avaient repris les répétitions depuis 2 semaines seulement, et il appréhendait vraiment ce retour en fait, parce que c'est vrai que pour un danseur physiquement 2 semaines de répétition c'est très court,
après 2 mois de pause très flou,
voilà. Et au final en fait ça a été un vrai partage avec le public, avec un échange à la fin qui était très touchant et très généreux de la part d'Amala en fait, pour bien montrer à quel point il était vraiment très content de retrouver en fait le contact avec ce qui fait le sel de leur métier, voilà.
Ouais, qui est aussi la rencontre avec le public,
exactement,
l'échange. Donc c'est vrai que quand on regarde la programmation, nous on voit un peu juste la partie immergée de l'iceberg avec les noms qui ont été donnés par d'autres structures, mais en fait c'est vraiment un échange autour de toute la mise en place. Enfin, il y a le Shabada, ça chauffe, le THV, enfin énormément de structures. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous auriez envie de garder en méthode de travail ou en...
Alors je pense que ça a créé en fait de l'émulation, c'est-à-dire que pour la suite ça nous a donné envie en fait de prolonger en fait les choses, sans parler forcément des bouffées d'art, mais en tout cas ça donne envie de renouveler en fait et de reconduire certains partenariats, parce qu'on s'est bien retrouvé autour de la méthode et aussi autour des valeurs. Je pense que on a une époque où de chercher du sens, par exemple, c'est pas galvaudé, parler de valeurs c'est pas que vulgaire en fait, et je pense que pour défendre un objet artistique, défendre le travail en fait du milieu du spectacle vivant, de l'artiste quel qu'il soit, quand on se retrouve à plusieurs pour le faire, ça donne plus de force et puis ça donne des envies, et je pense que l'enthousiasme qui naît de ça, on verra ce qu'il y aura après le mois d'août 2020, mais dans tous les cas en fait on aura passé un bel été grâce à ça.
Ouais, et ça fait une réponse aussi plus festive, plus joyeuse que de rester sur toutes ces annulations aussi qui ont été difficiles, enfin avec le Covid quoi.
Exactement, et ce qui est intéressant c'est que clairement on n'est pas les seuls, c'est-à-dire que là ça commence à bouger de tous les côtés. On a travaillé aussi de très près avec le Quai qui nous a sollicité en amont en fait de l'annonce des bouffées d'art en fait, parce que ça s'est un peu croisé et on était ravis de voir que Thomas Joly et toute son équipe qui a largement plébiscité le château venaient en fait découvrir un peu le site pour savoir ce qu'ils pouvaient y mettre, et donc c'est pour ça qu'on a trois spectacles qui sont portés par le quai en fait, la ferme des animaux le 1er août et puis deux dates avec la laborieuse entreprise de Laurent Brotom le 26 et 27 août, et dans ce cadre là c'est vrai que ce principe même de pouvoir accueillir différentes formes et de voir que ça réagit sur la ville d'Angers avec une programmation qui est portée par l'équipe des Accroche-Cœurs par exemple. Les ateliers de premier plan, j'étais à la conférence de presse hier, ça repart, on est en partenariat avec eux sur une des dernières dates, le ciné-concert en fait de la fin de l'été, le Buster Keaton, donc tout ça fait que ça frémit et ça fait du bien quand même que ça reparte, que ça revive un petit peu et que les gens puissent reprendre goût à la culture.
Ouais, et juste avoir des moments où on est content.
C'est ça.
La programmation, elle est volontairement pluridisciplinaire. Il y a du cirque, de la musique, de la danse. On en a parlé un peu, beaucoup de théâtre aussi. Et elle se veut aussi accessible. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, je sais pas, vos spectacles coup de cœur ou les prochains à venir? Il y a des choses cette semaine.
Alors, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Mais bon, on va pas faire les 30.
Dans les propositions que Sachauffe nous a fait, par exemple, que l'école de la carrière nous a fait le week-end dernier. On a eu 300 personnes, en fait. En format, comme le disait Thomas Joly à une époque, en fait, Corona compatible. Dans le parc, en fait, les gens étaient en toute sécurité. Il n'y a pas eu de stress du tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de place. Donc, les gens s'installent où ils veulent. Et on a eu un très beau spectacle de cirque. Il y en aura d'autres par la suite. C'est vrai que ce serait difficile d'en citer certains plus que d'autres. Après, on est attaché à des dates particulières. On a de la danse un petit peu en ce début juillet, en fait. On avait Amala la semaine dernière. Il y a donc deux belles propositions demain avec la compagnie de la parenthèse qui travaille avec la compagnie duo, avec un croisement de leurs propositions entre score et puis terrain glissant. Et on a, nous, il s'avère qu'on a maintenu un peu notre activité puisque les résidences d'artistes ont pu se maintenir. On a Guillaume Chausson dans nos murs qui est en étape de travail. Donc il y aura une première proposition qui est une première étape d'un travail chorégraphique, même si cette étape ne sera que musicale, mais qui démarrera. Donc c'est vrai que c'est une date auquel on tient particulièrement. Christophe, en fait, Garcia avec la parenthèse était déjà venu pour présenter son Cyrano il y a 2 ans maintenant. C'était vraiment un très bel objet dans le château qui mettait en valeur le château, et Dieu sait qu'on travaille à la valorisation de ce site en fait avec les équipes. Donc ça c'est une date à retenir. Je pense que tout le monde a vu sur les réseaux la musique en fait qui enchante nos oreilles de la Guerre des Étoiles, qui sera proposée par l'ONPL vendredi soir.
Ouais.
Et on aura un concert du Shabada. Après, sur les prochaines dates, je dirais que j'aurai un petit mot particulier pour la date du 8 juillet. Ouais. Et je pense que la compagnie appréciera, c'est que le 8, on a donc baignade interdite de la compagnie Ostéoroc. Et il s'avère qu'au tout début, il y a à peu près donc 25 jours, lorsqu'on a lancé les bouffées d'art, le titre, on le cherchait. On cherchait cette appellation-là. Et c'est la compagnie Ostéoroc qui nous a permis de l'utiliser. En fait, je remercie fortement Carole Bonneau, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, Baignade Interdite, c'est vraiment une belle proposition, justement, de la compagnie. C'est en après-midi. Et ça va dans le sens de la proposition en direction des familles. On a beaucoup de choses, en fait, dans ce sens-là, en fait, tout au long de l'été, avec des tarifs qui sont accessibles, puisqu'on a un tarif unique de 5 euros. Donc l'idée, ça a été aussi de travailler nos tarifs. On a changé notre grille tarifaire pour cette raison-là, pour qu'on soit en fait aussi sur un levier qui soit financier. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le château en fait est gratuit tous les après-midi de l'été. Et on a défendu avec toute l'équipe de médiation cette réouverture du site dans la même chose que ce que l'on défend pour les bouffées d'art, c'est-à-dire le fait que ce soit populaire, grand public, et que n'importe qui en fait puisse se réapproprier en fait ces éléments culturels. Et on fait un carton et on est très content, et ça ne nous empêche pas de recommander tous les sites qui sont autour de nous, comme tous les festivals qui commencent à rejaillir à droite et à gauche. Donc
il faut sortir, il faut soutenir aussi toutes ces dynamiques.
Exactement.
On a parlé de plein air. Est-ce que toutes les propositions des bouffées d'art, elles ont lieu en plein air? Est-ce que ça dépend?
Alors pour une raison simple de contingence sanitaires, elles sont toutes en plein air. C'est-à-dire qu'on a tout mis en place, on a un protocole qui est très précis, qui nous permet d'accueillir plutôt pas mal de monde, hein, parce qu'on peut aller voilà, jusqu'entre 300 et 500 personnes, parce qu'on a une très grande cour, en fait, elle fait 4000 mètres carrés, en fait, et qu'on a mis des moyens à disposition pour que les gens puissent se laver les mains, en fait, peuvent porter le masque s'ils ont besoin de porter le masque, mais on est sur du plein air, c'est pas couvert. Il y a donc des aléas climatiques, et c'est vrai qu'on réduit largement la jauge, en fait, si on doit replier, en fait, un spectacle. Ça vaut beaucoup pour le jeune public, puisque pour toutes les grosses formes, en fait, on est dans l'incapacité, en fait, de proposer, en fait, un repli. Donc, cette semaine, au vu du temps de la fin de semaine, je suis pour l'instant assez content, c'est-à-dire que ça tient. On a un peu de pluie aujourd'hui, mais il fera très bon, voilà, demain soir, vendredi soir et samedi soir. Parce que, bon, replier une formation de cuivre, en fait, d'une vingtaine de personnes, c'est relativement compliqué.
C'est un peu dit, ouais.
Et l'idée, c'est vraiment de, voilà, de maintenir, en fait, cette intégration-là au château, c'est-à-dire que on voulait aussi, au travers de la coactivité de tout ce qui se passe au château cet été, puisque tout repart tranquillement, c'était aussi mettre en valeur le lieu. Donc c'est pour ça que le lieu est assez épuré, en fait, en termes d'assises. Les gens s'installent pour énormément de spectacles dans le gazon. Clairement, c'est un choix. Ils peuvent venir avec leur siège s'ils ont envie, ça pose aucun problème. On peut en trouver, voilà, pour des raisons de meilleur confort pour les personnes qui en auraient besoin. On prévoira pour l'ONPL certainement, en fait, une assise un petit peu différente. Et ils peuvent même, en fait, avoir de la restauration sur place. En fait, on a un traiteur qui est sur place, le bar est ouvert. L'idée, c'est de faire quelque chose qui soit un moment de détente, un moment, en fait, où justement on prend une bonne bouffée d'air. Et je pense que Bouffée d'Art a trouvé sa définition assez simplement de cette manière-là.
Ouais, juste par le nom, on entend qu'il y a ce lien-là. Je vais renvoyer vers votre site et je vais mettre les infos sur la page de l'émission pour toute la programmation détaillée, parce qu'effectivement elle court sur les 2 mois, donc on n'a sans doute pas la possibilité de faire le détail de tous les spectacles. Mais c'est hyper riche. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées qui sont très importantes?
Une chose qu'on a oubliée, une seule, c'est que ça ne nous empêche pas d'intégrer, en fait, des choses qui étaient déjà prévues et qu'on est contente de pouvoir défendre à nouveau. On a un dispositif qui s'appelle Le Temps d'une Troupe, qui est une troupe éphémère qu'on a créée, en fait, qui est portée par une compagnie qu'on adore, qui est Le Temps est incertain, mais on joue quand même. Et cette année particulièrement, en fait, on a lancé pour la deuxième saison ce projet mélangeant amateurs et professionnels au plateau. Ça dure 15 dates. C'est du 20 juillet jusqu'au 7 août. Et c'est l'adaptation d'Oncle Vania de Tchekhov. Adaptation qui se base sur la fermeture de l'usine Lippe dans les années 70. Et je pense que c'est beaucoup d'actualité, ça défend de belles choses, comment le théâtre en soi, le spectacle vivant en soi, en fait, peut aider à maîtriser son destin. Et je pense que c'est des choses qui peuvent faire résonance énormément aujourd'hui.
Ouais. Vous rappelez la date ?
Du 20 juillet au 7 août.
Merci beaucoup. Je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir explorer toutes les dates, mais c'est une belle programmation, très riche. Merci beaucoup, je redonne les infos générales. Donc c'est le Festival des Bouffées d'Art qui a lieu jusqu'au 30 août au château du Plessis-Massé, porté par le département et de nombreuses structures du territoire départemental. C'est 5 euros ou 10 euros, ça dépend des spectacles aussi.
En soirée, 10 euros et 5 euros tarif réduit, et pour les journée, familles. C'est 5 euros tarif unique.
Génial. Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci de m'avoir invité, en tout cas.
Vous êtes toujours sur Radio G dans votre émission La Musgueule. On va faire une petite pause musicale avec le dernier morceau de Fontaine d'ici. Alors eux, ils sont 5, ils font du post-punk made in Irlande. Pour ça, d'ailleurs, le DC, Dublin City. Et eux, ils ont fait qu'un seul album pour le moment qui s'appelle Dogrel. C'est sorti l'année dernière, en avril 2019. C'est une pure pépite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont sortir un deuxième album à la fin du mois. Donc il faut encore patienter un petit peu. Mais en attendant, pour vous donner un avant-goût, on va écouter le troisième single qui annonce donc la sortie de cet album, l'album qui s'appelle The Hero's Death, et le titre c'est Televised Mind, Fontaine d'ici dans la Musgueule, et ce son il est sorti hier soir. Des fontaines d'ici sur Radio G dans la Musgueule. Pour la suite, du coup, c'est Valentin qui prend le relais.
Ouais, c'est ça. Je vous ai concocté une petite et rapide histoire que j'ai vue sur Internet. Du coup, elle m'a intéressé parce que c'est le genre d'histoire qui s'est passée dans la vraie vie, mais qu'on voit que d'habitude que dans les films, dans les animés, des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, ça s'est passé le mois dernier. En fait, le mois dernier, l'Amérique a vécu la fin d'une chasse au trésor qui a duré plus de 10 ans. Il y a 10 ans, un coffre rempli de pépites d'or et de pierres précieuses a été caché dans les montagnes rocheuses de l'Amérique de l'Ouest par un millionnaire. Et donc, le mois dernier, le trésor a été trouvé. Ça a été annoncé dans un blog spécialisé par Forrest Fenn, le riche marchand d'art qui avait caché en 2010 le fabuleux trésor d'une vingtaine de kilos. Donc le millionnaire avait rédigé un poème qui, joint à une carte, devait permettre de localiser le trésor. Donc c'est vraiment comme dans le film, quoi.
Trop romanesque.
Ouais, c'est ça. Et du coup, une énigme qui a rendu fou certains Américains. Forrest Fenn a écrit dans le communiqué publié ce week-end, le coffre se trouvait sous la voûte étoilée dans la végétation forestière luxuriante des montagnes rocheuses et n'avait pas bougé de l'endroit où je l'avais dissimulé il y a plus de 10 ans. J'ignore qui l'a trouvé, mais le poème dans mon livre l'a guidé, a précisé l'homme âgé de 89 ans. Donc le coffre était censé contenir une fortune dépassant 2 millions de dollars, sous la forme de diamants, émeraudes et pièces d'or notamment. Donc le millionnaire estime qu'environ 350 000 apprentis Indiana Jones se sont lancés sur la piste de son trésor durant la décennie, certains allant jusqu'à démissionner de leur travail pour se consacrer aux recherches.
Bah, comme nous.
Et voilà. Et au moins 4 personnes ont trouvé la mort de façon accidentelle dans cette quête obsédante dans une région immense, les montagnes rocheuses s'étendant sur plus de 3000 km. Voilà. C'est tout.
Un fou de fou.
C'est dingue.
Non, moi j'imagine.
Je pensais pas que ça existait.
Même, je crois, avec de l'or nazi qui avait été enfoui et qui était trouvé. Un emplacement.
Ah, ok.
Ils ont trouvé des manuscrits, je crois, ou enfin des livres avec toutes les données.
Ok.
Et quasiment. 300 ou 400 kilos d'or, je crois, un truc comme ça.
Ah oui.
Et peut-être des œuvres d'art ce qu'on m'a été volé et jamais retrouvé.
Bon, cette information est à moitié fable, ça fait un peu moins rêver. toi aussi, Emile, t'as trouvé des infos.
Ouais, c'est ça. Je fais une petite chronique un peu sur la technologie. J'ai une petite question à vous poser d'abord. Quel navigateur internet vous utilisez dans la vie de tous les jours ? Navigateur, je parle pas du moteur de recherche.
Firefox.
Ouais, pareil, Firefox, moi aussi. Enfin, j'alterne entre Firefox et Google Chrome, parce qu'il y a des choses qui marchent sur Google Chrome qui ne marchent pas sur Firefox.
Et à votre avis, pour vous, c'est quoi à peu près le top 3, top 5 des navigateurs les plus utilisés dans le monde ?
Il y a Mozilla aussi.
C'est Firefox, Mozilla.
Ah bah ok, autant pour moi, je me tais.
Firefox c'est le troisième, avec 9,4% d'utilisateurs.
Il y a Chrome aussi qui doit être bien placé.
Je dirais Chrome en deuxième et Internet Explorer en premier peut-être.
Non, Chrome en premier avec 59% de part de marché. Internet Explorer c'est 2,46%.
Ok.
En gros, le deuxième c'est Safari avec quasiment 20% d'utilisation. Et en gros, si je parle de ça, c'est que entre tous ces navigateurs-là, il y a un point commun. Est-ce que vous savez c'est lequel ?
Non, ce sont des navigateurs internet.
La rémunération. Ah, dommage.
Non, c'est qu'ils sont gratuits.
C'est vrai.
Tous les navigateurs sont gratuits pour la plupart. Enfin, j'en connais pas de payants. Et là, aujourd'hui, je suis tombé sur un article assez intéressant qui expliquait en fait comment les navigateurs internet généraient leurs revenus. Et vu qu'on sait tous que maintenant sur internet, il n'y a rien qui est vraiment gratuit. À chaque fois, on paye avec les données qu'on transmet. Et en fait, je me demandais en fait comment Firefox, vu que ça fait depuis 2002 que ça existe, comment ils ont réussi à tenir jusque là pendant 18 ans, sachant que eux leur credo c'est protéger justement nos données personnelles lorsqu'on navigue sur internet. Du coup, ça amène la question comment est-ce qu'ils vont générer des revenus autres que du coup la vente de données. Et du coup, il y a quelques alternatives, pardon. Et en fait, on s'est rendu compte que les revenus principaux des moteurs de recherche, en fait, sont des navigateurs internet, pardon, sont les moteurs de recherche qui sont déjà préinstallés lorsqu'on installe Firefox, Chrome, peu importe. Et en 2018, pour Mozilla, ça représente 430 millions de dollars. Soit à peu près 95% de son chiffre d'affaires sur l'année. Et en fait, sans surprise, c'est Google qui fournit la plupart de cette somme-là, parce que c'est le moniteur de recherche qui est le plus utilisé dans le monde et qui est par défaut dans la plupart des pays du monde, à part en Russie et ce genre de... ce genre d'endroit sombre, exactement. Et donc en fait, là ça amène une question, c'est assez paradoxal pour Mozilla, vu qu'au final ils dépendent à mort de Google, alors qu'ils ont deux business models qui sont diamétralement opposés. Et il y a certains moteurs de recherche comme Vivaldi ou Opera, qui est un peu plus connu, qui proposent en fait des liens directement en favoris de base dans le navigateur. On retrouve des places marchandes par exemple comme la Fnac ou comme Amazon ou encore Expedia, et ils vendent aussi des emplacements publicitaires sur les pages web directement lorsqu'on fait nos recherches sur internet. Et il y a aussi une plus petite partie des fabricants de smartphones qui en fait achètent la licence de Google Safari et autres, et pour en fait les intégrer directement sur leurs produits. Donc ça c'est une première partie des revenus qui peuvent être générés autrement que par la vente de données. Et pour Google Chrome et Microsoft Edge, en fait, le nouveau Internet Explorer, c'est un peu différent, parce qu'au final Google, ils ont Google, donc ils vont pas se verser de l'argent directement eux-mêmes pour dire on utilise notre moteur de recherche. Et Microsoft ont aussi leur propre moteur de recherche qui est Bing, que certains doivent connaître lorsqu'ils installent des logiciels et que ça installe Bing tout seul.
C'est très énervant.
Ah oh là oui.
Et en gros, ces moteurs de recherche-là vont leur générer des revenus publicitaires. Il faut savoir que la recherche, c'est ce qui génère le plus d'argent sur Internet. Et du coup, évidemment, Google et Bing, eux, revendent nos données lorsqu'on fait des recherches dessus. Et il faut savoir qu'en France, même en Europe, normalement, comment ça s'appelle
déjà ?
C'est pas la CNIL.
C'est un quiz.
C'est les autorités de protection européenne recommandent normalement que la conservation des recherches n'excède pas 6 mois. Sauf que ils recommandent juste et ils font rien pour l'instant si c'est pas respecté.
C'est pas contraignant.
Et il y a pas mal de navigateurs qui ne respectent pas ça. Et Chrome, quand il est arrivé, ça a un peu révolutionné la chose, puisqu'en fait tout est fait pour que on passe directement par Google. C'est-à-dire que ça a été les premiers à fusionner la barre d'URL et la barre de recherche. Avant, quand on tapait dans Mozilla, par exemple,
n'importe quel mot
dans la barre de recherche d'URL, on nous disait qu'il fallait passer par la barre de recherche. Et en gros, eux, c'était les premiers à faire ça. Du coup, ce qui fait que leur moteur de recherche est vraiment l'élément principal de leur interface au final. Et c'est la position dominante de Chrome, du coup, avec 60% de part de marché en avril 2020. En fait, eux, ça leur permet d'influer sur tout le standard du web. Mmh. Et c'est un bon moyen pour Google aussi de valoriser ses plateformes comme Gmail et que, par exemple, Chrome. On se connecte une fois dans Chrome et après on est connecté pour toutes les plateformes Google. Il y a certaines alternatives qui existent comme Brave, qui est un navigateur avec un business model un peu différent. En gros, eux, ils disposent d'une plateforme publicitaire qui est basée sur le Basic Attention Token. En gros, c'est une crypto-monnaie qui a pour le but de valoriser l'attention des utilisateurs. Pour gagner en fait de cette crypto-monnaie, l'utilisateur il peut regarder des publicités qui apparaissent souvent sous forme de notifications sur son navigateur. Et Brave garde une commission de 30% sur la somme que donnent les annonceurs aux utilisateurs qui ont regardé les publicités. Mmh. Ça a pour but en fait d'améliorer la protection des données en s'affranchissant d'une collecte et une revente de données abusives. Sauf que Brave, il y a pas longtemps, ils ont été un peu au cœur d'une polémique avec un usage douteux de liens d'affiliation. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est les liens d'affiliation, mais en gros, c'est des liens qui sont créés en partenariat. Par exemple, il y a un vidéaste qui va présenter sa nouvelle caméra sur Internet. Mmh. Il va en parler. Et dans la description de sa vidéo, par exemple, il va mettre un lien vers Amazon pour pouvoir l'acheter.
Pour faire l'achat, oui.
Et ça, en fait, en général, c'est un lien d'affiliation. Du coup, c'est un lien spécial qui juste donné
qui génère une commission.
Et ça va générer des commissions si les gens achètent sur le site à partir de ce lien-là. Je me suis perdu, excusez-moi.
Non, mais comme ça, on assimile toute l'information. Réfléchis à quel navigateur.
Je vais finir là-dessus. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont pointé du doigt en fait cette pratique, et à tel point que le PDG de Brave a dû s'expliquer en personne. Et au final, cette fonction a été retirée tout bonnement du navigateur. Quoi? Mais beaucoup de personnes pensent ne pas revenir sur le navigateur par peur que ça se reproduise.
Ok. T'as des conseils de navigateur à nous donner?
Moi j'utilise Chrome, donc je suis pas vraiment
Google.
Je suis pas vraiment le meilleur. Mais sinon il y a Chromium, c'est Chrome mais sans toute la surcouche Google qui traque un peu tout ce qu'on fait. Mm-hmm. Mais Chrome c'est le navigateur le plus performant
C'est vrai.
Qui existe. Je pense que c'est le plus rapide. Mais ça consomme beaucoup donc.
Oui, bon, voilà. Vous faites un choix, vous documentez sur les données personnelles.
Après, tu peux mettre
Mozilla,
Ecosia sur
Lilo.
Chrome.
Et si vous voulez faire des recherches sans donner vos infos, DuckDuckGo aussi est reconnu pour ça. Ils ne vendent pas trop les données de recherche. Voilà.
Très bien.
Bon, bah, c'est dommage, je ne vais pas avoir le temps de faire mon blind test.
Oh non.
So sad.
C'est pas grave. On fera ça une prochaine émission.
Demain, ou lundi, ouais. Ou mardi, ou mercredi.
Exactement. Ce sera un blind test autour d'une compile qui s'appelle Six Sad Words, pour ceux qui connaissent peut-être déjà. Donc, voilà. C'est des reprises des années 90-2000, mais on fera ce jeu-là une prochaine fois.
Ouais.
Du coup, ça, on va se quitter quand même en musique.
Si tu le souhaites, Kelly.
Merci.
Tu choisis un petit morceau, ouais. Ou c'est notre générique préféré?
Ça sera ce sera pas notre générique, ça sera un petit morceau de rap que j'ai choisi.
Ok, cool.
Comme ça, on improvise.
c'est la fin de l'émission et je crois que Valentin en attend ta merveilleuse conclusion.
Je pensais qu'on passait que la conclusion venait après.
Dis-nous tout, on a plus que très peu de temps.
Très bien, bon bah c'est la fin de la musgueule du coup. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site radio-g.fr. Demain nous serons en compagnie de Bentham dans la musgueule. Vous pourrez retrouver ce soir à 18h50 l'émission Sous les jupes des films. Merci de nous avoir écoutés. C'était Valentin, Émile, Kelly et Anne-Lie pour la musgueule. Bonne soirée sur Radio G.
À demain.
À demain.
Promise hair run, I put my fist up after I get my dick sucked. Quick buck, maybe a gold chain. With that fucking flow, the sister sober littles, men they tentatively
Sous les jupes des films.
Une émission pour